Vous avez dit que c'était... Vous parlez de PDG.
Oui.
Pourquoi ?
Pourquoi je dis PDG ? Ah oui, c'est un... c'est absolument pas un écart dans le langage. C'est quand, genre, quand je m'exprime à titre personnel, eh bien, je dis PDG parce que je ne trouve pas de meilleur terme. Ce n'est pas le bon terme. Ce n'est pas le bon terme parce que, officiellement, le président de n'est pas président-directeur général. Mais il en a tous les pouvoirs. Ou, plus précisément, il a plus de pouvoirs qu'un président-directeur général dans le privé. Me semble-t-il, hein, sauf erreur de ma part. Mais la loi et les rues, et ses suites, ont donné au président de l'université une sorte de quasi-monopole de la décision. On le sait bien à travers tout ce qui s'est produit depuis que cette existe sous les auspices de la LRU, à savoir tous les excès de pouvoir dont je n'accuse pas que je ne connais pas plus que ça. Hein. Enfin, en tout cas, semble bien disposé à endosser ce rôle. En tout cas, le statut de président est un statut de PDG. Donc j'utilise ce terme parce que je ne peux pas, personnellement, hein, je ne peux pas dire président, parce que si je dis président de l'université, c'est comme si je disais que c'est un président tel que on l'a toujours connu, hein, c'est une fonction telle qu'on l'a toujours connue. Or, cette fonction a radicalement changé. C'est devenu une fonction gestionnaire, beaucoup plus proche du pouvoir politique, des pouvoirs économiques. L'autre jour, on pouvait voir entouré de d'hommes d'affaires faire la louange de l'enseignement en alternance, etc. etc. Bref, moi, je me refuse évidemment à utiliser un mot qui ne convient plus, tout simplement parce que la réalité s'est évanouie pratiquement complètement. Voilà. Et voilà, c'est pour répondre à cette question-là.
D'accord. Justement, est-ce qu'on peut sûrement expliquer ce basculement dans la nouvelle manière d'envisager, du point de vue du pouvoir, des institutions qui agissent, des politiques, une nouvelle manière d'envisager la gestion de l'université sous le label de management, en fait, le fait d'importer même des termes néolibéraux en fait, qui viennent
de l'entreprise.
De l'entreprise et qui sont appliqués à ce qui relève de l'État.
Oui, oui, oui.
Donc une nouvelle manière de gestion, donc forcément, quoi de mieux pour incarner cette gestion que à la tête? Quelqu'un qui n'a plus grande différence avec patron,
oui.
Un chef d'entreprise.
Oui, donc, oui.
Comme s'ils étaient interchangeables, en fait.
Mm-hmm. Oui, oui,
comme
oui.
Si le président de l'université actuelle, pourrait aller diriger une entreprise, et puis, vous voyez, on aurait presque un marché comme ça, comme ça se fait dans le monde de l'entreprise.
Oui, oui, oui. Oui, il était question à un certain moment d'ouvrir la fonction de président d'université au tout venant. Hein, voilà. Quand la LRU était discutée, c'était probablement d'ailleurs quelque chose qui était dans les tuyaux. Hein, à savoir qu'un chef d'entreprise, évidemment une entreprise proche de l'université en question, etc., etc., n'est-ce pas ? Mais disons qu'un chef d'entreprise puisse diriger je me souviens très bien de débats là-dessus. Finalement, je ne sais pas exactement quelle est la lettre de la loi là-dessus. Est-ce que une fac en France va encore être dirigée par un universitaire ayant le grade de professeur je pense, peut-être pas pour le grade, mais en tout cas que c'est quelqu'un qui appartient au personnel, au corps des enseignants-chercheurs. Je ne suis même pas sûr. Mais toujours est-il que oui, il y a une néolibéralisation de l'université. Voilà. C'est-à-dire, le néolibéralisme s'appuie sur deux piliers. D'une part, la libéralisation de la société, c'est-à-dire la transformation de la société, grosso modo, en marché, hein, en marché, c'est-à-dire une société qui repose sur le marché libre, et le marché libre qui va stimuler la culture, etc. Donc une sorte de marxisme, à l'envers, ou plutôt même à l'endroit, puisqu'on reproche à Marx d'avoir dit que l'économie est l'infrastructure de la société, alors que ce sont ceux-là même qui le lui reprochent, qui le réalisent en ce moment. Ils ne font que nous dire que l'économie est la locomotive de la société, que l'économie, d'abord les emplois, d'abord donner de l'emploi aux jeunes, enfin c'est invraisemblable le marxisme larvé qu'il y a dans le discours de nos chefs d'entreprise et de nos chefs d'entreprise politique libéraux. Hein, hier matin, on a pu entendre sur toutes les chaînes les nouveaux missionnaires de la néolibéralisation de la France, donc M. Sapin, M. de Montebourg, etc., qui tous ont ce discours de « attention, l'économie porte l'entreprise France hein, ». Voilà, ça devient même une étiquette qui ne choque plus personne. Hein, l'entreprise France, bien. Le « made in France », pour parler de l'activité, quelle qu'elle soit dans ce pays, maintenant on parle de « made in France ». L'autre jour, je l'ai entendu même pour une production culturelle. Le « made in France ». Donc, oui, il y a une néolibéralisation des universités, et le néolibéralisme repose sur le libéralisme, qui est une très vieille doctrine, d'ailleurs, qui, de par son ancienneté, ne peut de toute manière pas fonctionner, ne fût-ce que parce qu'elle a été imaginée au XVIIIe et au XIXe siècle, hein. Et elle s'est très peu renouvelée, même le néo dans néolibéralisme est encore une sorte d'excès de langage en fait. Donc il y a l'aspect idéologique, disons les choses clairement, donc transformation de la société en marché, mais l'autre pilier, et c'est là où il y a quelque chose de nouveau, l'autre pilier c'est de dire que ce libéralisme ne doit plus essayer de supprimer un maximum l'État en écartant l'État. Non, c'est un libéralisme qui doit investir l'État. Qui doit investir l'État. Autant de choses que vous savez, mais tant qu'à faire, je réponds à votre question. Doit investir l'État et donc le logiciel entre guillemets néolibéral doit être aussi implanté petit à petit au cœur de l'État. Jusqu'à même amener celui-ci à croire dans le bien fondé de ce logiciel et à se réformer lui-même sur des bases néolibérales, c'est-à-dire à se transformer en entreprise. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons depuis des décennies et depuis surtout 20 ans en France, c'est la transformation rapide des modes de communication, des modes de sélection, de recrutement, etc., etc. Alors ça prend du temps parce que on a des syndicats qui freinent, qui sont archaïques, etc. Et qui en plus ont mis du temps eux-mêmes avant de comprendre ce qui leur arrivait, hein, parce que ça a été fait de manière très caché, jésuitique, sans complot, hein. Il ne faut pas de complot pour néolibéraliser une société, c'est en marche depuis très longtemps. Donc, sans complot, eh bien, les syndicats de fonctionnaires, etc., ont eu beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui se passait, et au contraire, ont même collaboré, sans bien le savoir. On fait entrer dans la ville ce cheval de Troie, et on compris que oui, il vaut mieux quand même rendre plus efficace tel service. Mais oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que tout le monde passe à l'informatique, et ainsi de suite. Et donc l'informatique a été un très grand allié de la néolibéralisation, elle l'est toujours, hein. C'est une véritable révolution conservatrice, comme dit un numéro des actes de la recherche en sciences sociales sur l'informatique, hein. Très intéressant. Donc cette révolution conservatrice, c'est petit à petit implanté dans la machine de l'État et a petit à petit pris possession, si vous voulez, des esprits toujours plus nombreux, jusqu'à même donc transformer des ministères en entreprises. Hein, aujourd'hui, le ministère de la Culture n'existe plus, c'est devenu le ministère de la Culture et de la Communication. extraordinaire lapsus, si vous voulez, extraordinaire voilà, manière de dire que même la culture, ce qui quand même est aux premières loges de l'histoire de France, me semble-t-il, voilà, même la culture est petit à petit embrigadée dans la transformation de l'intérieur avec la complicité objective des agents qui habitent cet univers-là, la transformation de leur univers en entreprise. Et l'université, c'est la même chose. C'est la même chose. Une fois que l'État s'est suffisamment, néolibéralisé, eh bien, il s'est également tourné vers des institutions qui étaient dans son giron, mais qui étaient encore relativement autonomes. Et comme d'habitude, c'est par un discours, j'allais dire, cynique, mais en tout cas mensonger, à savoir en utilisant le mot même d'autonomie, en disant qu'on allait accroître l'autonomie, qu'on a évidemment contribué à l'affaiblir très fortement. Elle n'est pas tout à fait cassée, mais disons que cette autonomie ne tient plus qu'à quelques fils, vous l'aurez compris. Comme désormais est gérée comme une entreprise avec une énorme souffrance des petits personnels. Par exemple, il faut savoir que le service des ressources humaines est le lieu de beaucoup de souffrances personnelles. Par exemple, mais il y a d'autres endroits où cette transformation en entreprise qui s'est faite brutalement et qui ne se fait pas selon des logiques d'entreprise véritablement, parce que dans les entreprises ça se passe plus humainement, pourrait-on dire, parce que ces gens-là savent de quoi ils parlent, ils ont en face d'eux des syndicats, ils ont en face d'eux des prud'hommes, il y a des choses, il y a des garde-fous, alors qu'ici il n'y a plus aucun garde-fou, il faut bien se le dire, et donc tout le monde a peur. Il y a une sorte de, je ne vais pas dire loi de la jungle, parce qu'il y a des textes, etc. Et le passé survit dans une certaine mesure. Mais je vous prie de croire que la plupart de mes collègues enseignants-chercheurs, quoique donc nommés à vie, étant fonctionnaires, etc., ont peur. Comme disait un des nôtres lors de la réunion, la non-réunion de cet enseignant, avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de, j'allais dire, de franchise, eh bien, disait qu'il avait peur pour sa carrière. Cette peur n'était pas uniquement liée au fait qu'il se voit plus en lettres qu'en études culturelles, comme il l'expliquait. Cette peur, elle a pour fondement, je dirais, cette inquiétude généralisée instaurée par la néolibéralisation de l'université. Donc je dis ça pour faire un lien entre ce qui se passe entre études culturelles et ce qui se passe dans l'université française en général. Il y a une forte perte de sécurité. Le sentiment d'insécurité sociale est galopant. Avant le week-end, quelque part, vendredi je pense, une étudiante avec laquelle je devais avoir un entretien, m'a appris que ont été installées, je ne sais même pas si c'est vrai, mais ont été installées sur le campus des caméras. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant de ça. Bon, alors, elle m'a dit, regardez là et là, elle m'a montré des caméras, parce qu'on s'est retrouvés en bas, moi je devais quitter plus tôt, donc on s'est retrouvés sur le patio, enfin dans l'espace vert du bâtiment A, et elle m'a dit, regardez là et là, et puis voilà. Et apparemment, dans la salle A028, on en parlait. Je ne suis pas au courant. Mais disons que l'affaire des caméras, ou si ces caméras n'existent pas, l'affaire des cartes d'accès aux portes, etc., ça n'a soulevé aucune espèce de résistance ou de question. Il y a eu en tout et pour tout 7 enseignants-chercheurs sur les centaines d'enseignants-chercheurs qu'il y a sur ce campus, qui ont fait une démarche, qui ont voulu savoir d'où venait cette idée saugrenue, qui nous a donc coûté la bagatelle de 330 000 euros, alors qu'on nous dit en déficit, etc., 330 000 euros pour doter nos portes de cartes dont personne n'a que faire, puisque ça fonctionnait très bien jusqu'à ce moment-là.